Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme d'habitude avec Charles Gave ici présent. La semaine dernière, on parlait de la France essentiellement et de à quel point c'était inintéressant en fait ce qui se passait. Enfin, c'était révélateur de quelque chose de profond qui se passe dans le pays d'un point de vue, on va dire politique, institutionnel et aussi, comment dire, de point de vue qui évolue dans la population,
Bah,
une certaine
l'idée de
usure
base,
du
c'était de
pouvoir.
dire que c'est terrible dans un pays quand le méthode de sélection des élites amène une série de bons à rien au pouvoir et qu'on réussit pas à les faire partir, quoi. Donc tout le monde se rend compte qu'ils sont pas compétents, tout le monde veut les faire partir, mais eux, ils s'accrochent comme des morpions en s'appuyant sur la loi, quoi.
Voilà.
Et donc, c'est assommant, quoi.
Et cette semaine, je voudrais parler d'autre chose, de tout ce qui ne se passe pas en France finalement, puisqu'il se passe des choses. Alors, il se passe des choses dans l'actualité, je veux dire très très ponctuelles. Là, par exemple, cette semaine, il y a le plan de paix de Trump en Israël qui est
Très bien.
arrivé à sa fin. Donc voilà, c'est très bien. On va en parler un petit peu. Je voudrais tout d'abord parler de ce qui se passe. Plus sur le continent eurasiatique et plus particulièrement en Asie et aussi au Moyen-Orient, parce que il se passe beaucoup de choses. Alors en fait dernièrement, on a discuté un petit peu avec ce bon Xavier Roffer qu'on apprécie bien et qui d'ailleurs reviendra bientôt à la fin du mois là sur la chaîne aussi pour parler de criminalité cette fois-ci. Mais là on parle d'un tout autre sujet de comment en fait les différents pays de cette zone eurasiatique s'organisent. Sur des sujets tout à fait différents d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a frappé parce qu'il nous a sorti quelques articles de la presse étrangère et notamment de la presse asiatique qui du coup est
Pakistanaise,
voilà.
chinoise, indienne, etc. C'était très
Exactement.
intéressant.
Donc ça c'est bien d'avoir ce genre de source parce que ça permet de ne pas passer par le filtre.
Oui.
À chaque fois, il y a un filtre très puissant. Je le vois parce que, comme je suis capable de parler et lire l'anglais, je peux lire la presse anglaise, américaine directement sans avoir de filtre. Et je perçois directement comment la presse française et la télévision française filtrent l'information qui vient des États-Unis
Oui.
jusqu'à la France. Et à chaque fois, on voit même les médias de droite, que ce soit le Figaro, CNews, etc. J'ai bien vu comment ils traitaient l'élection américaine l'an dernier. Et moi, j'étais capable de voir au-delà de ce filtre, mais en revanche, je suis pas capable de le faire pour des langues que je connais pas, notamment
Ou des zones sur
ou
lesquelles
des
tu sois
zones,
pas
voilà,
sûr, sur sûr pas personne, quoi.
que je ne connais pas bien. Je connais pas bien le Japon, je connais pas bien la Chine, je connais pas bien le Pakistan, je connais pas bien l'Inde, tout ça. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir accès à des
Il est en train de vous dire qu'il connaît pas bien les 2 tiers de la population mondiale, quoi.
Voilà, mais c'est vrai.
Non, mais ce que vous dites est très important parce qu'il y a quelques mois, j'avais été à Prague, invité par des gens de droite, enfin du Parlement européen, pour une conférence internationale. Il fallait que je parle et c'était sur la diplomatie. Et apparemment, pour les Américains qui étaient là et pour les Européens qui étaient là, la diplomatie, c'était de la discussion entre les États-Unis et l'Europe. Et je leur ai dit, mais attendez une seconde, il se passe plein de trucs en dehors de ces deux-là,
Ouais.
et c'est là qu'en fait que tout se passe, et vous êtes en train de continuer à parler comme si on était encore en 1945, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, oui.
Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer grosso modo qu'il se passe plein de trucs à l'extérieur,
Oui.
et que les gars là-bas, ils se parlent entre eux comme des fous,
Ouais.
et on n'est pas au courant.
Ouais, tout à fait. Et ce que je note déjà, dans un premier temps, c'est la différence fondamentale entre la façon dont ces pays s'organisent et la façon dont nous, on s'est organisé. C'est-à-dire que la première organisation dont je voudrais parler, c'est l'Union économique eurasiatique. Alors ça, c'est en fait une espèce de chambre de commerce, un petit peu en quelque sorte, avec des accords de libre-échange. Donc un bloc commercial, en fait, qui regroupe la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Voilà, donc ça c'est tout un tas d'accords commerciaux dans cette zone qui est assez
Dans le fond, c'est
compacte.
une grosse partie de l'ancienne URSS à l'époque,
Voilà,
quoi.
c'est ça, c'est un peu l'ancien bloc soviétique, même un petit peu restreint. Et déjà, ce qui me turlupine, c'est la différence avec l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, on a une espèce de blob, l'Union européenne, qui fait un peu tout à la fois.
Oui, et qui
Et
régule et qui réglemente, etc. Est-ce que
voilà.
là, tout se passe? Pas un de ces pays n'abandonne aucune liberté que ce soit, aucune
Ouais.
souveraineté. Ils discutent entre eux, ils font des projets communs, mais toujours en pleine souveraineté. Donc
Ouais.
partout, on évite l'écueil de l'organisation qui essaie de se substituer aux nations, quoi. C'est ça que je trouve très intéressant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des coalitions d'intérêts, comment dire, qui ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire, on va pas avoir 40 pays asiatiques qui vont se dire, alors on va se mettre d'accord sur les méthodes de paiement, sur la monnaie, sur la fiscalité, sur les investissements, sur la santé,
Sur la façon
sur
dont on bouche les
l'éducation, sur
bouteilles.
nanana. À chaque fois, nous c'est cette manière-là qu'on
C'est-à-dire qu'on a
procède.
remplacé les compétences nationales par une compétence supranationale.
Voilà.
Et c'est pas du tout ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient simplement de se mettre d'accord pour que commercer librement entre eux. Ce qui était au départ le but de l'Europe, le traité de Rome, c'était qu'on fasse du commerce entre nous, qu'on mette pas de protectionnisme. Et bien, il y avait pas de, on n'allait pas en faire un. Et puis finalement, petit allemand, on a essayé d'en faire une nation, de transformer, d'enlever les souverainetés. Et donc là, il n'y a pas de bloc central qui aurait vocation à devenir quelque chose, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc là, par exemple, dans le truc que j'ai cité, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas tout ça.
Non.
Voilà, parce qu'à chaque fois, on commet l'écueil de superposer en quelque sorte les BRICS
Oui.
à notre organisation, à nous. Ce sera en quelque sorte un miroir de l'OTAN ou de l'UE. C'est pas du tout le cas. Les BRICS, c'est une organisation globalement commerciale, mais surtout qui essaye de se mettre d'accord sur des moyens de paiement, en
Voilà.
gros pour contourner Swift, et puis aussi sur des accords monétaires, quoi.
Monétaire,
C'est
des
globalement
accords de
ça.
paiement, des accords de prêt à long terme, etc.
Voilà.
Et d'inscrire leur projet de développement dans un truc plus large. Je suppose être par exemple, allez, je sais pas, l'Iran, ben vous allez avoir des. Il va falloir que vous alliez parler à la Russie qui est là-haut, là, et puis peut-être au Pakistan qui est en bas.
Ouais.
Ben, si on fait des lignes de chemin de fer, autant de laisser faire qu'elles se mettent quelque part entre, qu'elles se joignent en
Voilà.
Iran, que l'ensemble, ça devienne un ensemble de trois pays qui se mettent d'accord.
Voilà.
On parle à refaire, dit beaucoup, qu'il va y avoir aussi une zone électrique où il y aura des échanges d'électricité entre ces pays, justement, pour éviter de bâtir trop de centrales. S'il y en a une qui est à côté, ben, elle peut aller piquer de l'électricité de le voisin. Donc c'est des accords de bon voisinage, mais c'est pas
Ouais.
des accords d'abandon de souveraineté.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, ça facilite aussi, on va dire, le poids diplomatique
Bien
de
sûr.
ces pays-là. Mais
Ah, ils ont des
derrière,
diplomaties très actives.
voilà, mais derrière, il n'y a pas du tout de projet d'unification juridique ou quoi que ce soit. Ils admettent que c'est des pays très différents, avec des intérêts parfois très différents, parfois même contradictoires. Et donc, les BRICS, c'est un ensemble vraiment très large et qui ne permet pas du tout de comprendre réellement ce qui se passe dans cette partie du monde. Surtout que
Non, et
les
entre, et comme
BRICS.
vous l'avez dit fort justement, on
Ouais.
essaye de projeter sur les BRICS l'idée qu'ils vont essayer de faire
Ouais.
quelque chose qui sera
Un miroir de ce qu'on
un
fait.
miroir de ce qu'on a chez nous, mais ils ont vu toutes les loupes, tous les loupés qu'on a. La dernière
Ouais.
des choses qu'ils veulent, c'est faire imiter nos erreurs, quoi, ça.
Ouais. Et c'est pas non plus un accord de défense. C'est-à-dire que
Non?
la Chine va pas défendre le Brésil s'ils se font attaquer par l'Argentine. C'est pas du tout la même chose. Mais il y a des accords de défense quand même qui se passent et on va en parler un petit peu. Deuxième organisation, c'est l'OCS. Alors ça, c'est l'organisation de la coopération de Shanghai qui doit défendre la justice, l'impartialité internationale tout en promouvant activement un monde multipolaire. C'est ce qu'a dit Xi Jinping. Et ce sommet-là, il
Alors
ramène.
multipolaire, j'arrête une seconde, parce que
Ouais.
multipolaire dans le monde, etc.,
Oui.
ça veut dire que les États-Unis sont pas là.
C'est ça. C'est un contrepoids en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on fait des accords entre nous, mais finalement les
Voilà.
États-Unis sont pas là
Et
parce que les États-Unis prétendent être unipolaires, c'est-à-dire le
Ouais,
chef.
ouais.
Et là, il n'y a pas
Et
de
là,
chef.
ça rapproche uniquement la Chine, la Russie et l'Inde. Donc c'est vraiment les trois grosses puissances
C'est mon truc à
eurasiatiques.
trois, là. C'est
Voilà.
le triangle du futur.
Donc là, il n'y a même pas le Pakistan, il n'y a même pas la Mongolie ou je ne sais quoi. C'est vraiment les trois big boss, en quelque sorte un G3, anti-occidental en quelque
Mais
sorte.
c'est eux qui, aussi curieux que ça paraisse, quand vous regardez la Chine, qui est une
Ouais.
espèce d'île en elle-même, la Russie, qui est un immense territoire aussi complètement contre, et puis l'Inde, donc ces trois zones qui vont devoir, dans le futur, correspondre les unes avec les unes avec les autres, ces trois
Ouais,
zones, alors
ouais.
qu'elles le faisaient assez peu. Et donc, c'est de ces trois zones que va partir l'espèce de maillage de toute l'Asie. C'est-à-dire que vous devez passer par ces trois-là si vous voulez mailler l'Asie en entier, quoi.
Ouais.
Parce que la Russie s'occupera du Kazakhstan, de tous ces autres-là, là. L'Inde, elle a du boulot à l'intérieur, et la Chine, elle va s'occuper de l'Asie du Sud-Est. Donc, on voit très bien que si vous voulez faire des lignes aériennes qui fonctionnent, des trains qui fonctionnent, etc., à l'échelle du continent asiatique, ben c'est ces trois-là qui doivent prendre des décisions, personnellement.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est des organisations qui facilitent les relations entre politiques, entre entrepreneurs aussi. Donc là, ça s'étend aussi progressivement au domaine financier et commercial. C'est ce que dit l'article que m'a sorti Refaire. Avec la puissance de la Chine, ça, c'est un truc qu'on répète énormément sur cette chaîne, la puissance économique de la Chine qui est le moteur vraiment de cette expansion-là. C'est-à-dire, on trace au papier des trucs, des projets qui ont l'air pas mal. Ensuite, la Chine, qui a le capital, dit « bah oui, c'est très bien ».
Et les compétences pour les
et
développer.
Et les compétences, tout ce qui est ingénierie, tout ça, toute la masse de travailleurs qualifiés. C'est ce que dit à chaque fois, comment il s'appelle, Tim Cook, le PDG de Apple, c'est que c'est effrayant à quel point la Chine regorge de travailleurs qualifiés. On peut remplir des stades avec. C'est hallucinant, on peut aller dans n'importe
donc,
quelle ville.
Ils sont en train de dominer l'industrie mondiale, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a une nouvelle qui est passée dans tout le fratras de nouvelles, qui est une nouvelle extraordinairement importante et dont peu de gens parlaient, c'est que maintenant l'Inde va payer son pétrole à la Russie en renminbi.
Oui.
C'est sorti, ce qui est une nouvelle absolument incroyable.
Oui.
Ça veut dire quoi? C'est donc que l'Inde et la Chine ont passé des accords de swap, vous savez, où la banque centrale... Pour que, allez, je vais vous la faire courte. La Chine a déposé, je sais pas, 300 milliards de dollars, l'équivalent en renminbi, avec laquelle l'Inde va payer son pétrole à la Russie. Et puis l'Inde a déposé l'équivalent de 300 milliards de dollars en roupies en Chine, avec lequel les Chinois vont emprunter cet argent, les entreprises chinoises, pour faire des infrastructures en Inde.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas de domaine éminent, il n'y a rien du tout. Il y a juste des accords de swap entre deux banques centrales. Et d'ici 5-10 ans, on verra qui a gagné, qui a perdu, et puis on paiera la différence, quoi.
Ouais.
Donc, on voit se développer ce capitalisme d'échange, mais qui n'est pas un capitalisme. Il n'y a pas besoin d'une monnaie de réserve.
Ouais.
C'est un truc que je me tue à dire aux gens.
C'est assez fondamental parce que et beaucoup de gens, pareil, encore une fois,
ils refont l'angle parfait.
Voilà, on a un schéma d'organisation. On se dit l'Occident s'est organisé comme ça, depuis la Seconde Guerre mondiale en gros. Donc le reste du monde qui essaye de contrecarrer cette surpuissance va faire exactement pareil. En fait, non, elle fait des choses de manière différente.
On va voir, c'est ce que je dis. Ce que
il n'y a pas une monnaie centrale.
Il n'y a pas une monnaie centrale. Le système ancien.
Il y avoir une dominance du yuan, mais je dirais il n'y a pas de.
Où il y aura une dominance du marché financier chinois à travers Hong Kong, c'est tout. Parce que c'est là que deviendra l'épargne excessive. Mais vous prenez par exemple le système monétaire qui date de la Seconde Guerre mondiale, c'était un gros ordinateur centré sur les États-Unis, et puis vous aviez un écran qui vous permettait d'envoyer des trucs ou pas. Là, c'est pas un gros ordinateur, un organisme centralisé, il va y avoir comme des multitudes de petits PC qui se parlent les uns aux autres.
Ouais.
Donc on va vers un système de paiement international qui sera complètement décentralisé et où les monnaies locales auront un rôle très important et les marchés obligataires locaux très importants. C'est-à-dire que nous, dans le système ancien, il y avait que le marché obligataire américain qui était important parce qu'on devait tous passer par là si on voulait du capital à long terme. Là, pas du tout. Vous pourrez lever des pognons en Chine, en Inde, en Indonésie avec des obligations locales. Donc on passe d'un système complètement centralisé et donc fragile à un système complètement décentralisé.
Oui. Et puis, encore une fois, sur les accords de swap, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je pense qu'il y a des gens, ils vont être un peu largués, mais ça permet concrètement d'avoir beaucoup plus de prévisibilité sur le marché. C'est-à-dire que typiquement, vous avez un contrat dans une monnaie, vous ne savez pas, ça se trouve, vous allez devoir payer à l'échéance du contrat peut-être dans 2 ans. Votre monnaie se sera effondrée par rapport à l'autre et du coup vous allez être en incapacité de payer et l'autre va être en incapacité de recevoir. Enfin bref.
Est-ce que là vous empruntez directement dans la monnaie dans laquelle vous allez payer
Donc on sait déjà ce qu'on va payer à l'avance, ce qui facilite considérablement les échanges commerciaux entre les pays.
Mais ça permet d'éviter de passer par le dollar parce que je regardais là, je faisais un petit calcul si vous voulez. Vous prenez la roupie indienne contre le renminbi, la monnaie chinoise.
Ouais.
Bon, ben de 2004 à dans les 2018 à peu près, la variation moyenne de la roupie vis-à-vis, c'était de 15% par an. Donc, vous ne pouviez pas passer, si vous étiez en Chine, un contrat avec l'Inde, ou l'inverse, parce que personne ne pouvait courir le risque.
C'est ça,
La différence des taux d'intérêt, c'était 5 ou 6%, donc vous ne pouviez pas prendre de risque. Mais aujourd'hui, après les efforts qu'ont fait la Chine et l'Inde, la variation sur les 12 derniers mois est de 3%. Donc, vous pouvez maintenant commencer à faire du commerce en vous couvrant sur les marchés à terme pour 3 ou 4% par an. Et donc, vous pouvez faire du commerce. Vous n'avez plus ce risque, comme vous l'avez dit, de prendre une énorme gamelle sur le truc qui est monté ou a baissé de 15%. Donc, petit à petit, ce monde financier est en train de se stabiliser, ce qui va permettre de mobiliser les épargnes locales beaucoup plus facilement.
Tout à fait. Y a un autre pan aussi que je voudrais aborder, dont j'ai très vite fait parler, c'est la défense. Parce que là aussi, il s'est passé quelque chose, et je vous parle vraiment de l'actualité très récente, c'est des trucs qui sont passés en septembre. Le 17 septembre précisément, Riyad a déroulé le très rare tapis royal violet pour accueillir le Premier ministre pakistanais. Ce qui est un honneur jusque-là réservé vraiment aux grandes puissances mondiales, hein, comme Donald Trump typiquement quand il vient, ou Xi Jinping, mais sinon c'est assez rare. Et en fait, pourquoi ? Eh bien parce que il y a désormais un accord stratégique de défense mutuelle, entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, sachant que le Pakistan détient l'arme nucléaire. Alors l'arme nucléaire, ils disent on va quand même la garder pour nous, mais ils ont du coup une alliance militaire désormais avec une puissance nucléaire. Ce n'est pas les États-Unis.
Si quelqu'un attaque l'Arabie Saoudite
ouais.
avec, par exemple, des armes nucléaires, à ce moment-là, automatiquement, c'est ce qu'on appelle une alliance défensive. Mmh. C'est-à-dire que dans le passé, ce qui a amené à la guerre de 14, aussi curieux que ça paraisse, c'était des alliances offensives et défensives. Ouais. C'est-à-dire que si l'Autriche attaquait la Serbie était défendue par la Russie. Mais si la Russie, du coup, se mettait en guerre, à ce moment-là, la France était obligée de se mettre en guerre parce qu'elle avait des accords offensifs et défensifs avec la Russie. Donc, depuis la guerre de 14, on a décidé qu'il fallait faire que des alliances défensives. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque l'Arabie Saoudite de façon nucléaire, à ce moment-là, les Saoudiens vont demander C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la protection militaire que les États-Unis offraient à l'Arabie Saoudite n'est plus jugé crédible par les Saoudiens.
C'est ça. Concrètement, c'est ça.
C'est ça que ça veut dire.
Ils ont très mal pris ce qui s'est passé dernièrement avec Israël.
Bombarder le Qatar, ça, Israël c'était pas rusé.
Bombarder le Qatar, et le Qatar qui pourrait se rejoindre ce genre d'accord.
Alors, le Qatar, c'est pas l'ami des Saoudiens, ils se détestent.
Non,
parce que c'est le Qatar qui est à l'origine quand même beaucoup du terrorisme qu'il finance, etc. Donc le Qatar, il a un rôle un peu spécial. Mais quand même, c'est toujours pareil, si vous voulez. Si on attaque un musulman, même si vous l'aimez pas beaucoup, vous êtes un autre musulman, vous allez l'aider, quoi.
Oui, tout à fait. C'est les Pakistanais, eux, ils voudraient faire bénéficier leur parapluie nucléaire à une espèce d'alliance arabe, du coin, en échange de quoi ces pays arabes, qui sont très riches d'un point de vue des liquidités, pourraient permettre au Pakistan de davantage financer son armée dont les importations militaires viennent à 80% de la Chine. Donc là aussi, ça permettrait de booster, en plus de ça, les usines d'armement.
Oui, mais alors le problème, si vous voulez, c'est que la Chine... très contente de vendre des armes au Pakistan.
Oui.
Mais ce qui est très embêtant, c'est que le Pakistan et l'Inde sont ennemis depuis toujours. C'est pas nouveau à cause du Cachemire, etc.
Oui,
donc vous êtes en train de vous dire, si les Pakistanais deviennent trop proches de la Chine, les Indiens vont refuser les offres d'alliance de la Chine, etc. Donc il faut trouver...
Le juste milieu.
Un juste milieu, et donc il faut... Mais l'idée de base, quand même, quand vous regardez tous ces trucs-là, c'est que il faut qu'on s'organise sans introduire ni les Américains ni les Européens dans nos organisations. Mmh. C'est ça l'idée de base. Il faut qu'on se parle entre nous.
Ouais,
on n'a pas besoin des grands frères d'autrefois.
Et cet accord, en fait, il ressort de trois grandes dynamiques. D'une part, le désintérêt américain envers ses alliés arabes. Qui en fait est la traduction du soutien très massif, peut-être trop de leur point de vue des Américains envers Israël. D'autre part, les manœuvres un petit peu offensives d'Israël en Iran, au Qatar, en Liban, en Syrie, au Yémen, qui a pas été vue d'un très bon œil dans la zone. Et puis aussi la victoire ou au moins semi-victoire pakistanaise par rapport à l'Inde dernièrement là quand.
Oui, ils ont descendu avec l'opération Sindor. 6 avions, dont 4 MiG et 2 Rafale.
Oui, tout à fait.
Et je crois que l'embêtant, c'est que les avions chinois qui ont fait réussi ce coup-là sont quand même à peu près au quart du prix des avions que des Rafales, quoi. Donc, là aussi, il y a un phénomène, c'est ce que j'ai essayé de signaler à plusieurs reprises, mais les gens m'ont beaucoup contré. Je dis, les armes que nous faisons sont très chères et très sophistiquées, mais elles ne sont pas meilleures. C'est-à-dire qu'on a bien vu dans la guerre d'Ukraine, là, que les armes américaines, les armes européennes, elles se veulent plutôt ratatiner par les armes russes.
Ouais.
Donc, il se passe aussi une espèce d'idée que quand on voyait arriver un avion américain, on était mort de peur parce que c'était automatiquement le meilleur. Peut-être plus. Peut-être plus. Les avions chinois sont de chasse, ou de maintenant les derniers russes, sont peut-être aussi bons que les avions.
Ouais.
Donc la supériorité.
Même s'ils ne sont pas meilleurs, on peut en produire davantage pour moins. Voilà. Et du coup, le budget militaire, en quelque sorte, ne veut rien dire.
Voilà, ça ne veut plus rien dire.
Voilà, c'est ça. Vous pouvez peut-être être beaucoup plus efficace avec la moitié du prix.
La moitié du prix.
En fonction de comment vous.
Si les États-Unis achetaient leurs armes en Inde, leur budget. En Chine, leur budget militaire, c'est sans doute le quart de ce qu'il est aujourd'hui. Quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très fascinant d'un point de vue de l'évolution militaire et de la tactique et de la stratégie, ce qui s'est passé en Ukraine, puisque effectivement, on a d'un côté des avions américains, de l'équipement extrêmement technologique.
Et les chars qui servent à rien.
Les chars qui servent plus à rien, ou presque plus à rien.
30 secondes de vie sur un champ de bataille.
Et en face, on avait ces fameux drones iraniens qui coûtaient que dalle et qu'on pouvait balancer n'importe comment. Enfin, c'est aujourd'hui, on peut créer des tout petits drones pour 50 €. Qui voilà, c'est pas une merveille technologique, mais enfin, ça vole.
Ça vole et ça touche.
Et après, il a fallu attendre quelques années. Et aujourd'hui, on a la technologie qui va contrer ces drones-là avec, par exemple, des rayons laser ou alors des brouilleurs, tout simplement. Oui. Et après, en retour, on y répond encore. C'est-à-dire que, par exemple, si on a des brouilleurs qui vous empêchent de téléguider votre drone, vous allez maintenant implémenter une intelligence artificielle dans votre drone, ce qui fait qu'il n'a plus besoin d'être téléguidé, et donc ça ne sert à rien de le brouiller. Enfin bref, c'est que des équipements...
Mais c'est la vieille, c'est le truc qui date depuis le début des conflits.
L'épée et le bouclier.
L'épée et le bouclier, il n'y a rien de neuf. Un jour, l'épée gagne, le lendemain, c'est le bouclier. Là. De temps en temps, il y a un gars qui sort un nouveau truc, donc il gagne pendant quelques temps. C'est la phalange, c'est la légion romaine, puis pof, on trouve une façon de le coincer. Et puis, donc c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Mais là, on sent quand même qu'il s'est passé un phénomène, c'est qu'on allait vers des armes de plus en plus chères et donc de plus en plus technologiques. Et là, d'un seul coup, conflit en Ukraine, on est allé vers des armes de moins en moins chères et qui n'étaient pas tellement technologiques, et ça suffisait largement à faire le conflit. Donc il y a aussi un basculement. Il n'est pas certain qu'envahir un pays pas très développé, ça soit aussi facile qu'on le pensait autrefois.
Ouais.
Parce que s'il a des drones et tout, il peut vous faire des dégâts pas possibles. Quoi.
Ouais. C'est clair. Autre chose, le gazoduc Power of Siberia 2 aussi.
Énorme.
Alors ça, c'est un projet absolument titanesque. Alors c'est aussi, moi je suis parisien, donc j'ai l'habitude des travaux, notamment à l'initiative de cette bonne Anne Hidalgo.
Hidalgo qui met des barrages partout, il n'y a jamais personne qui y bosse, oui,
et,
ça on sait ça.
Et à chaque fois, c'est les projets de rénovation de machin, on dit en 2022, ça ce sera rénové, ce sera comme avant, ce sera magnifique, ce sera machin. Et du coup, à chaque fois, tous les projets comme ça, architecturaux ou même de rénovation, ça prend des années et des années. J'ai l'impression que c'est hallucinant le temps que ça prend. Un dernier souvenir en date, c'était la rénovation, le ravalement de façade sur l'église de la Madeleine, qui a pris un temps absolument fou. J'avais l'impression que ça faisait 5 ans que c'était là. Et là, j'ai vu que pour le gazoduc Power of Siberia 2, donc ça, c'était un article du 19 septembre de cette année, la construction va être avancée. Donc, elle va être plutôt que prévu, en fait. C'est-à-dire que c'est le PDG de Gazprom qui l'a annoncé. Donc c'est un gazoduc assez énorme, long de 2600 km. Le pipeline transportera jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an depuis la région de Yamal, en Sibérie occidentale, vers le nord de la Chine, via la Mongolie. Évidemment, la Mongolie est tout à fait d'accord pour avoir ce gazoduc qui passe par son territoire. Et d'ailleurs, ils sont très pressés de l'avoir le plus vite possible. Et d'ailleurs, ce gazoduc, il est payé 50% en roubles, 50% en yuan.
C'est-à-dire que la Russie, la Chine avance encore une fois avec encore une condition à cause de son immense pouvoir d'épargne que la Russie, que la Chine a, des fonds pour qu'il y ait des projets structurels qui se passent. Alors, il y en a un autre aussi qui se passe, c'est vous avez des gazoducs comme ça qui passent de la Chine au travers de Myanmar, vous savez, l'ancien, et,
ouais,
et là qui passe dans des zones extraordinairement dangereuses où il y a des, c'est là où la drogue est, est fabriquée, etc. Le triangle d'or là-bas, c'est extrêmement dangereux, mais c'est très curieux, ces deux pipelines qui passent là pour aller vers Singapour, etc. Il est compris que personne ne doit y toucher parce que sans ça la Chine va être très fâchée, quoi. C'est,
oui. Oui, oui.
Donc, quand vous introduisez comme ça des éléments de stabilité dans une zone qui est instable, petit à petit, si vous voulez, ben, la zone a tendance à stabiliser. Évidemment, si jamais on réussissait à stabiliser le Pakistan, qui a toujours été un merdier, pas possible, Pakistan, Iran, tout ça, c'est... Il y a beaucoup de gens.
Oui.
Il y a beaucoup de gens, vous avez des centaines de millions de gens, puis là-bas il y en a 80 ou 100 millions, puis en Philippines il y en a 120, puis au Vietnam il y en a 100 millions. Donc vous allez avoir un développement de tous ces pays qui vont se relier les uns aux autres, en particulier grâce à l'énergie qui viendra de la Sibérie, qui va être phénoménale.
Oui, là ce que je note, c'est comme à l'habitude de la Chine depuis quelques années, c'est l'obsession énergétique.
Mais ils ont raison.
C'est l'obsession énergétique.
Mais c'est celle qu'avait De Gaulle, c'est celle qu'avait Guillaume.
Ils construisent des centrales à charbon, ils construisent des centrales nucléaires, ils construisent même des centrales solaires comme c'est pas permis. Ils mettent en place ce gazoduc. Et d'ailleurs, ce gazoduc, en fait, risque de même pas être rentable au final pour Gazprom parce que, bah, il va coûter très cher et que, en plus de ça, ça va permettre au gaz d'être encore moins cher puisqu'il y aura encore plus de distribution, donc encore plus d'offres. Mais simplement, c'est un peu quand on construit des ponts, des routes, des machins, le projet en lui-même peut ne pas être rentable, mais derrière, ça permet des externalités positives hallucinantes.
Et voilà. Et alors, l'externalité positive la plus importante, c'est que tous les gens parlent de l'intelligence artificielle, qui est certainement un truc très important, mais l'intelligence artificielle, contrairement à l'Internet, ça bouffe une électricité,
oui,
monstrueuse.
Complètement dingue.
C'est complètement dingue, ça bouffe. Donc, si vous voulez vous développer dans les années qui viennent dans les nouvelles technologies, ben, les anciennes technologies, aussi curieux que ça paraisse, elles n'étaient pas du tout ce qu'on dit en anglais « capital intensive ». C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital. Votre PC ne coûte pas cher.
Oui.
L'Internet, finalement, une fois qu'on avait mis les câbles et tout, ce n'était pas très cher. Donc, vous aviez une rentabilité sur capital investi qui était très très forte parce que le capital que vous avez mis n'était pas très gros et les économies que vous faisiez étaient énormes. Donc une rentabilité sur capital investi gigantesque. Mais là, les sommes qu'il faut investir en capital sont gigantesques.
Oui, colossales.
Colossales. Et je sais pas très bien quel est l'acteur du privé qui peut investir ces sommes-là. Donc... Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, l'Allemagne a un coût d'énergie de 6, les États-Unis de 3 et la Chine de 1. Ben, si maintenant on a besoin d'énormément d'énergie, où est-ce que vous croyez que les trucs vont se développer le plus vite? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, qui ne font pas d'efforts d'électricité, qui ont dit qu'ils allaient les faire mais qui ne les font pas pour l'instant, le prix de l'électricité ne cesse de monter. Le prix du pétrole ne monte pas, mais le prix de l'électricité, ouais, c'est la transformation du pétrole en électricité qui manque. Ils ont tout le pétrole qu'ils veulent, ils ont, oui, tout, oui, le gaz qu'ils veulent, mais ils ont pas fait les centrales.
Oui.
Et ça prend quand même 2-3 ans de faire des centrales, si vous y mettez tout de suite, quoi.
Bien sûr.
Et nous, on n'a toujours pas fini celle qui est à Flamanville, là.
Oui.
C'est vrai, il y a 15 ans qu'on passe dessus, quoi.
Oui.
Donc, on a essayé de faire une énorme centrale.
On en parlait, puis François Hollande, ce truc.
Oui, mais bien avant. Mais on a essayé de faire une énorme centrale gigantesque qui ferait... En fait, ce que les gens vont faire, comme ils font en Chine, c'est qu'ils font des petites centrales nucléaires partout.
Oui.
Qui sont robustes, qui on n'a pas besoin d'une merveille de...
Il y a même une start-up française. Leur produit, je crois, de mémoire, devrait être disponible à partir de 2028, quelque chose comme ça. Une start-up française qui propose de faire des toutes petites centrales nucléaires qui tiennent, en fait, dans un conteneur. ce qui permet bah, du coup de le livrer n'importe où dans le monde. Et donc ça, c'est très utile bah, pour par exemple une industrie qui va nécessiter énormément d'énergie. Typiquement, la moitié de l'énergie de la ville de Marseille, vous en avez besoin sur votre site, et bah, vous avez votre petite centrale comme ça
Qui est à vous.
qui tient dans le cube pour vous.
Qui est à vous.
Bah, ça,
Est-ce qu'il avait fait des
c'est
Russes il y
génial
a
ça.
quelques années qui m'avaient beaucoup intéressé aussi? Ils avaient fait des centrales nucléaires sur des barges flottantes. Donc, si vous voulez, en hiver, ils les mettaient au nord là-bas pour chauffer les gens.
Ouais.
Et en été, ils les déplaçaient pour aller le faire du.
Intéressant.
C'est donc l'idée de centrale nucléaire qu'on peut bouger est probablement un truc qui va se développer beaucoup, quoi.
Oui, mais d'ailleurs, en fait, on sait le faire depuis assez longtemps techniquement, puisque déjà dans le domaine militaire, on a les
On a les sous-marins
sous-marins à
nucléaires
propulsion nucléaire.
et le porte-avions.
Voilà, donc eux, ils sont pas branchés
Non, non,
à je
non.
sais pas quoi.
Donc, vous allez avoir un immense maillage. Cet immense maillage va requérir un énorme développement de l'énergie. L'énergie est abondante, pas chère, etc. Mais les Chinois se préparent déjà vers l'étape suivante de la développement économique, qui est l'intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'ils ouvrent une centrale à charbon par semaine, quoi.
Ouais,
C'est incroyable.
c'est quoi
Donc, vous voyez, d'un côté, nous, on prépare rien. On a maintenant un ministre de l'écologie là qui veut fermer les centrales nucléaires.
Oui, bon après celle-là, on ne sait pas combien de temps elle va tenir parce que
Probablement une
bon,
semaine.
voilà, ce
Il
serait
n'y a
déjà
plus,
bien.
comme dit un de mes amis, il n'y a plus que trois nouveaux gouvernements avant Noël, chouette.
Ouais.
C'est effrayant, quoi. Elle a les rouilles, les bouffes. Et puis donc, nous, on fait rien. Les Américains se développent dans l'intelligence artificielle, mais ils vont avoir un problème de capacité électrique. Et puis là-bas en Asie, ils se développent et ils font les développements qu'il faut dans le domaine électrique. Donc,
Ouais.
comme toujours, comme l'économie, c'est que de l'énergie transformée, mais vous savez qu'elle va être transformée efficacement là-bas et pas du tout chez nous. Donc,
Ouais. Ça fait penser à un truc que vous dites souvent, c'est qu'il faut jamais détenir d'obligations d'un pays qui vend son or, et il faut au mieux, quitte à avoir des obligations de pays qui, eux, ont beaucoup d'or, qui accumulent de l'or. On voit dans cette zone-là les banques centrales un peu nouvelle génération, nouvelle école de ces pays-là, Asie du Sud-Est, Chine, etc., accumulent beaucoup d'or.
Mais pour une raison très simple, c'est que mettons qu'ils passent des accords de swap avec la Chine,
Oui.
c'est-à-dire qu'ils se prêtent de l'argent dans leur monnaie respective comme ça,
Ouais.
légal. Mais au bout d'un certain temps, mettons l'Indonésie a un déficit vis-à-vis de la Chine parce que la Chine a plus vendu
Ouais.
qu'ils n'ont vendu à la Chine. Bon, ce qui est très probable. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il va falloir solder la différence. Mais solder la différence en quoi? Eh ben, si vous avez de l'or, vous pouvez le solder. Tout le monde acceptera l'or en banque comme solde. Donc, on passe d'un système où on avait besoin du dollar pour le chiffre d'affaires, si vous
Ouais.
voulez. Vous vendiez vos exportations en dollars, comme vous étiez là. Aujourd'hui, on en aura besoin pour uniquement solder la différence entre les ventes qui auraient eu lieu dans les deux monnaies locales. Bah, vous avez besoin de beaucoup moins d'argent pour solder la différence plutôt que pour solder les ventes.
Ouais.
Donc, si vous voulez, on change de nature, on passe au financement des ventes au financement du déficit ou du surplus entre deux pays, mais
Oui.
c'est une partie infinitésimale, quoi.
Et ces mêmes pays, du coup, mettent en place des infrastructures qui permettent d'avoir de l'énergie peu chère,
Voilà.
notamment la Chine. Par conséquent, est-ce que je me dis, est-ce que de la même manière qu'il faut jamais avoir des obligations en
Il
dehors
faut
de
toujours
pays,
aller
voilà.
là où l'énergie est pas chère.
Voilà. Mais ça, plus pour les actions, du coup.
Mais pour les actions, il faut
Ouais.
toujours aller là. On l'a très bien vu dans les années de 2004 à 2012 à peu près, la Chine s'est développée en utilisant le charbon de façon massive. Elle avait l'énergie la moins chère du monde. Alors vous alliez à Pékin, vous ne pouviez pas respirer, c'était dégueulasse.
Ouais.
C'était pollué comme tout, mais c'est le marché chinois qui était le meilleur. Puis les États-Unis ont découvert dans les années 2010-2012 le gaz de schiste, là, vous savez, faire des trous et trouver du gaz en cassant des rocs, là. Et pouf, pour les 10 ans qui suivaient, c'est les États-Unis qui ont été les meilleurs. Donc on doit chercher dans nos têtes où l'énergie va-t-elle être la moins chère, parce
Ouais.
que c'est là que vous devez avoir vos actions, quoi.
Ouais.
Mais moi, pour moi, la réponse, elle est simple, hein.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est la plus grosse ville industrielle de Chine. Ils ont tellement de centrales vous savez, les miroirs magiques, là, ils ont tellement de ces centrales que l'électricité est gratuite pendant la journée, quoi.
Ouais. Pour rester dans la zone, j'avais une question un peu provocante sur la notion de puissance. En fait, je me suis demandé, avec ce qui s'est passé le week-end dernier sur l'interdiction, en tout cas le contrôle massif que la Chine avait invoqué sur ces terres rares pour leurs exportations, et de l'autre côté Donald Trump qui dans un premier temps dit bon bah si c'est comme ça 100% de tarifs sur la Chine qui dit très bien faisons comme ça, et du coup Trump qui décroche le téléphone et qui dit bon est-ce qu'on peut pas s'entendre un peu mieux. Je me pose la question, est-ce que la Chine n'est pas la réelle première puissance mondiale, c'est-à-dire que si on calcule d'un point de vue PIB, on estime que les États-Unis sont encore devant, mais finalement qu'est-ce que la puissance si ce n'est ça finalement d'un point de vue
alors,
diplomatique.
C'est une très bonne question, et l'idée de première puissance mondiale est déjà une idée assez fausse, mais comme l'avait dit je ne sais plus quel premier ministre français il y a longtemps, on lui avait demandé qu'est-ce que les puissances, et il avait répondu c'est quand vous pouvez l'exercer, c'est-à-dire que la puissance elle ne se prouve pas, elle s'exerce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous voyez qu'il est puissant, donc.
Oui.
Alors, il y a quelque chose de très net, c'est que depuis 2 ans à peu près, la Chine est le seul pays qui ait dit aux États-Unis, quand ils lançaient leurs histoires de protectionnisme, etc. Oui. Nous, on n'accepte pas, quoi.
Oui.
Donc, ce qui se passe, c'est que personne n'osait s'opposer aux États-Unis il y a encore 5 ans, et que maintenant la Chine dit pas moi.
Oui,
donc
tout à fait.
Il se passe un phénomène très curieux, c'est que il y avait l'hyperpuissance, comme disait Messrine, de les États-Unis. Ben maintenant, cette hyperpuissance n'est plus reconnue par la Chine.
Oui.
Alors ça ne veut pas dire que la Chine est plus puissante que les États-Unis. Mais ça veut dire que la Chine est redevenue complètement souveraine.
Oui.
Donc plus je réfléchis au monde actuel, plus je me dis qu'il ne peut y avoir d'équilibre que dans un retour à la souveraineté de chacun des pays.
Oui. À ce titre, je voudrais lire un communiqué de l'ambassade de Chine aux États-Unis qui est très clair pour un peu résumer la situation. Ils disent « La position de la Chine sur la guerre commerciale est cohérente. Nous n'en voulons pas, mais nous n'en avons pas peur. » Depuis les négociations économiques et commerciales sino-américaines de Madrid en septembre, les États-Unis ont introduit, en seulement 20 jours, une série de nouvelles mesures restrictives visant la Chine. Ils ont placé plusieurs entités chinoises sous les mesures Entity List et Special Designated National List, ont arbitrairement étendu le champ de contrôle des entreprises avec la mesure Affiliate Rule qui affecte des milliers d'entreprises chinoises, et ont persisté dans la mise en œuvre des mesures Section 301 visant des secteurs maritimes, logistiques et de la construction navale chinois au mépris des préoccupations et de la bonne volonté de la Chine. Les actions américaines ont gravement porté préjudice aux intérêts de la Chine et ont fragilisé le climat des négociations économiques et commerciales bilatérales. La Chine s'y oppose résolument. Elle exhorte les États-Unis à corriger rapidement leurs pratiques erronées. Si les États-Unis persistent dans cette voie, la Chine prendra sans aucun doute des mesures résolues pour protéger ses droits et intérêts légitimes. J'ai envie de dire, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut parler comme ça aux États-Unis.
Voilà.
Mais c'est pas du tout hostile.
C'est
ce que je note, c'est qu'il n'y a pas du tout une espèce d'hostilité.
Si vous continuez à nous casser les pieds, ben on jouera sans vous.
C'est ce que j'apprécie quand même avec la diplomatie de Donald Trump, c'est que ça peut être très très musclé, et d'un autre côté, ça peut se détendre en 2 secondes.
Ben allez,
il va tester la réelle puissance du mec d'en face, et s'il reconnaît que le mec d'en face fait le même poids, il dit bon, on s'entend bien, on a plus à perdre qu'autre chose. En se foutant sur la gueule.
Voilà. Il y a ça, et il y a aussi, je vais dire quelque chose d'un peu stupide, mais le calme que projette la Chine. C'est-à-dire que quand elle vient vous voir, quand vous êtes un pays, le Myanmar, l'Indonésie, etc., elle vous parle de développement à 10 ans, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, de faire des ports, de faire des nouvelles villes, tout ça. Et vous regardez, si j'ose dire, ce que la Chine a exporté dans le reste de l'Asie et même en Afrique, c'est des routes, des hôpitaux, des trucs qui n'existaient pas avant. Et ce que les États-Unis ont exporté, c'est des armes et des bombes, quoi. Donc, vous dites, alors d'un côté, il y a des gars qui me bâtissent des maisons, et de l'autre côté, il y a un gars qui me les bombe, quoi. Donc, finalement, ça finit par agacer. Vous voyez ce que je veux dire, les gens?
C'est très complémentaire.
C'est très complémentaire, oui, ça donne du boulot à tout le monde. Mais, il y a un peu ce côté, dans le fond, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis l'arrivée de Clinton ou de Bush? Oui, de Clinton. C'est qu'ils ont été, ils ont bombardé la terre entière, quoi. Ils ont bombardé la Serbie, ils ont bombardé l'Irak, ils ont bombardé. Donc les gens se disent, bon, moi, si je comprends bien, puis de l'autre côté, la Chine arrive, il dit, est-ce que je pourrais prêter du pognon pour que nos sociétés puissent bâtir des usines ou des routes ou des ports? Ben, ouais. Donc, c'est marrant, mais la Chine aujourd'hui projette une image de paix et les États-Unis de guerre.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est nouveau, parce que quand j'étais jeune, les États-Unis, c'était ce qui protégeait la paix, quoi. C'était.
Ouais, tout à fait. Et sur cette histoire, ce qui a vraiment fait paniquer tout le monde ce week-end, alors les marchés boursiers étaient fermés, mais je l'ai vu sur le Bitcoin. Il y a eu une grosse panique sur le Bitcoin, qui est un peu un proxy du S&P 500, hein, avec un poil plus de volatilité. Et encore dernièrement, c'est très faible la volatilité par rapport au marché actions. Et donc il y a eu une panique totale quand Trump a annoncé 100% de tarifs, parce que ça voulait dire que en quelque part, ça entérinait la décision de la Chine d'avoir un contrôle total sur les exportations de terres rares, sachant que 90% du raffinage de terres rares vient de Chine.
C'est des terres rares, ça raffine, ça vous donne des métaux tout à fait spéciaux dont vous avez besoin pour faire des avions de chasse, des sous-marins.
Mais pour faire même une voiture, quoi.
Pour faire une voiture, pour faire des ordinateurs. Donc ça veut dire que, quelque part, et c'est aussi une faute stratégique des États-Unis incroyable, un produit dont ils ont absolument besoin pour faire tourner leur économie, et même leur système militaire, est produit à 90% par celui contre lequel on est censé se préparer, ouais, à la guerre, quoi. Donc c'est, ouais, quand même bizarre. Ça me rappelle quand paraît-il, je sais pas si c'est vrai, paraît que c'est pas vrai, que la centrale électrique pour la ligne Maginot était à Strasbourg, quoi. C'est-à-dire, les Allemands lui filaient un coup de canon, et puis il n'y avait plus d'électricité. Donc, c'est les erreurs que font les erreurs stratégiques que font les stratèges, c'est quand même assez poilant.
Ouais. Et alors là-dessus, quand même, ils font des efforts, hein, les États-Unis, sur le raffinage de ces terres rares. Et il y en a. Voilà, ils en font beaucoup plus qu'il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans.
Les terres rares, elles manquent pas, hein, il y en a partout.
Oui, il y en a partout.
Mais ce qui manque, c'est les capacités de raffinage.
Tout à fait. Ça demande vraiment des prouesses technologiques et énormément d'énergie. Et c'est dégueulasse.
Ça fait une pollution pas possible.
Et du coup, il faut que ce soit rentable. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous avez beau dire on va rapatrier tout ça partout, parce qu'on a des entreprises partout dans le monde qui le font, ok, sauf que ça va coûter extraordinairement cher de le faire sur place. Donc vous pouvez le faire d'un point de vue stratégique.
C'est certains qui peuvent le faire, parce que c'est tellement dégueulasse que les trucs de pollution vont coller.
Oui, alors ça, il y a l'aspect politique, mais je veux dire, c'est faisable d'un point de vue stratégique. En revanche, d'un point de vue économique, là, ça va vous mettre dans la panade, parce que vous, les matériaux que vous allez acheter, ils vont être largement plus chers que ceux que vos concurrents achètent en Chine, et du coup, bah, leurs produits vont être sensiblement pareils, mais pour un prix moindre.
Et puis, il faut pas oublier que la Chine, elle exportait 20% des exportations, elle est vers les États-Unis à 4-5 ans, je sais pas quoi. Maintenant, ils sont à 12 ou 13%, donc la part des exportations chinoises vers les États-Unis ne cesse de baisser. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent se dire, bon, je perds 7 ou 8% de mes exportations, oui, et j'en ai rien à foutre.
Oui, tout à fait.
Alors que les États-Unis, s'ils perdent des exportations de terres rares, eh ben,
c'est ça. Cuit. C'est-à-dire que du point de vue de la Chine, évidemment, c'est pas agréable, hein, de perdre, voilà. Mais c'est pas, c'est pas absolument déterminant non plus. C'est-à-dire juste, ils perdent un peu de temps. Mais c'est ce qui serait arrivé d'une manière ou d'une autre dans les 15 prochaines années, quoi. Alors que du point de vue des États-Unis, là, actuellement, ils peuvent pas du tout s'en passer.
Non, ils peuvent pas. Et c'est là où on se rend compte que finalement, encore une fois, il y a des erreurs stratégiques. Par exemple, les meilleurs semi-conducteurs étaient faits à Taïwan. Bon, Taïwan, c'est à 100 km de la côte chinoise, donc c'est. Sans les semi-conducteurs faits à Taïwan, aussi l'armée américaine, elle s'arrête. Donc, je dis quand même, c'est pas raisonnable. 100 km, c'est vite fait, hein. Avec un avion qui va vite. Puis maintenant, les terres rares. Alors ça, c'est bon, on a besoin pour toutes nos industries. Et on les fait en Chine, 90%. Vous dites, ça me paraît un peu crétin de dire à la puissance qui vous contrôle, qu'on va rentrer en guerre avec elle dans 5 ou 6 ans. parce que vous l'aidez à se préparer. À ce moment-là, ce que vous faites, si vous voulez vraiment mettre en guerre, c'est que vous fermez votre gueule, que vous mettez des usines de Taïwan en États-Unis, puis vous faites des terres rares, et ensuite, oui. Vous menacez. Mais vous menacez pas quand vous êtes vous-même dans un état de faiblesse. C'est imbécile.
C'est juste impossible, oui.
Donc, on se dit, mais ce sont pas des professionnels, ces gars-là, quand même.
Oui.
C'est un peu gênant.
Ouais. Mais fort heureusement, au moins, Trump a une bonne capacité de...
Ah, il a pas peur de dire, tiens, on va changer d'opinion.
Oui, oui, voilà. Donc, en l'espace de 2 jours, il a dit, bon, on décroche le téléphone, comment ça va, la famille, les amis, le travail. Et si on arrêtait tout ça, là, parce que moi, j'ai vraiment besoin de tes terres rares, quand même.
Oui, non, il en dira pas, mais vous savez, vous faites des produits de très bonne qualité, ce serait dommage qu'on s'en prive et tout, et tout. Donc je vois très bien le genre de discours. Et madame, elle va comment?
Ouais.
Et les petits vont bien, mais je sais pas si on a, d'ailleurs que si, mais d'ailleurs on n'en parle pas de ces petits. Mais donc, non, mais cette façon de menacer les gens alors qu'on est dépendant d'eux, c'est si vous voulez, je sais pas, mais si vous menacez le gars qui vous file de la cocaïne, et que vous avez besoin de cocaïne tout le temps, c'est un peu couillon.
Ou alors vous prenez le contrôle de son business, mais ça requiert une certaine organisation.
Ouais, c'est pas, et puis la défense, c'est animal.
Ouais.
Je sais pas, en principe, ce que disait Montesquieu, c'est que les guerres s'est rendu impossible par le doux commerce, si vous voulez dire par là. À partir du moment où des pays deviennent complètement interdépendants de l'autre, l'un de l'autre, ils ne peuvent plus vraiment se mettre sur la gueule.
Ouais.
Et c'est pas faux. Mais si le but des États-Unis, comme n'arrête pas de dire leur études à long terme, c'est d'un jour de se payer la Chine, ce qui me paraît pas une bonne idée, mais ça c'est... Mmh. Mais à ce moment-là, vous travaillez en douce, sans le dire à personne, pour réduire vos dépendances à la Chine, et puis ensuite...
Oui.
Vous pouvez pas dire, on va vous rentrer dedans dans 50 ans. Attendez, je m'occupe des Russes.
Je suis absolument dépendant de vous.
Je liquide d'abord les Russes, puis une fois que j'aurai liquidé les Russes, je vais m'occuper de vous, la Chine.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les Russes et les Chinois vont se mettre à se,
oui.
vont se mettre à se parler.
Si vous comptez le faire, vaut mieux pas l'annoncer à l'avance, ouais.
Voilà,
déjà aussi.
Si vous voulez, Hitler, au moins, il avait cet avantage de signer les traités de Munich pour dire, mais non, maintenant, je vais plus attaquer.
Puis, oui, c'est vrai que c'était habile.
On n'était pas obligé de le croire, mais. Donc, si vous voulez, ils sont si j'ose dire, d'une bêtise qui dépasse l'entendement, qui me font penser qu'ils sont atteints d'hubris.
Oui. Et puis, pendant ce temps, chez nous, on n'a même pas parlé de la chose. C'est-à-dire qu'on est allé avoir, parce que ces contrôles d'exportation ne visaient pas que les États-Unis, ça visait potentiellement tout le reste du monde. Donc, nous aussi, en tant qu'Européens, on était dans le pétrin et personne n'a parlé de quoi que ce soit. Alors, nous, on était en pleine tambouille politique pour savoir si entre le cornu 1 et le cornu 2, il y avait le cornu 1,5.
Il y avait le biscornu aussi.
Il y a le biscornu. Enfin bref, et nous on était mais à
ben nous si vous voulez on est très occupés à discuter du sexe des anges pendant que les Turcs sont en train de grimper les remparts de Constantinople. Ça c'était quand même vachement important, donc sur le sexe des anges on est imbattable.
Donc c'est
on voit très bien des gens qui veulent sortir de l'histoire.
Oui, tout à fait.
Qui s'imagine que le bonheur, c'est dans le fond de ne plus être rien.
Oui, c'est tout à fait le sentiment qu'on
L'Europe
a.
L'Europe est devenue la patrie du nihilisme.
Oui, oui, c'est vraiment ça, c'est sortir de l'histoire, ne pas avoir de projet pour l'avenir, même pour la semaine prochaine. Alors encore moins pour 10 ans, 15 ans, à la limite juste cesser d'avoir des enfants, cesser d'être, cesser de vivre, cesser de respirer.
Cesser de respirer, tout comme ça.
S'écraser le plus possible face à l'inéluctabilité
on va tous mourir, mais futur. Ça c'est certain, mais c'est pas que la nouvelle, c'est pas qu'on va tous mourir, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant de mourir. Nous, avant ça, autrefois, on avait en tant que civilisation un projet de tas de trucs à faire, comme bâtir des cathédrales.
Ouais.
Et maintenant, on a comme projet, je sais pas, de mettre des sûretés sur les bouteilles d'eau, quoi. Ce qui me désole, c'est que ce que disait Bernanos, France, porteur des cathédrales, des fous et des philosophes, ben, pas beaucoup de cathédrales, plus beaucoup de fous, et encore moins de philosophes.
Ouais.
On est devenu la terre des peureux, oui, gérée par des peureux.
Oui.
Ça me désole. parce que notre pays, c'était quand même le Cyrano de Bergerac du monde, quoi. C'était, ouais. On faisait des conneries, mais avec panache.
Non, c'est vrai. Et on le voit notamment dans le milieu politique, parce que sinon, quand on en sort, il y a des Français de tous les jours qui font des choses absolument admirables.
Au rugby, on est les seuls à jouer au rugby comme on joue au rugby.
Oui, c'est vrai. Même si on n'arrive pas à gagner la Coupe du Monde. Mais
c'est pas grave. Si vous voulez, c'est que toute équipe qui joue contre la France se dit qu'elle va peut-être prendre une branlée sans savoir pourquoi ni comment. Mais c'est une façon de jouer au rugby qui n'appartient qu'aux Français. Eh bien, ben la France, c'était... Je trouve ça au poil. C'était le pays qui faisait des conneries, mais avec qui avait de l'allure.
Effectivement. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais tout de même parler de quelque chose, parce que je le vois de plus en plus, même à titre personnel, et vous, la communauté, vous me communiquez régulièrement cela aussi, c'est les fausses publicités sur l'Université de l'Épargne. En fait, même pas sur l'Université de l'Épargne, mais des fausses publicités sur vous. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, ça peut être des visuels qui vous disent « Charles Gave vous a recommandé le mois dernier je ne sais quelle action qui était à 300 centimes et maintenant elle est à 300 000 euros donc rendant riche toute personne qui vous avait écouté. » Alors première chose, dès que c'est des trucs comme ça, c'est systématiquement faux, déjà parce que...
Si j'étais capable de le faire, je vous le dirais pas.
Voilà.
Je le dirais pour moi.
Et puis on fait pas de stock picking, on fait pas ce genre de choses.
Et je vous dirai un autre truc très important, j'ai pas passé un ordre en bourse personnellement depuis 25 ans.
Ah oui.
Donc, si vous voulez, aller bidouiller sur les marchés, je fais jamais.
Ouais, ouais.
J'ai trois fonds dans lesquels je suis, les fonds de la maison, là. Et puis, j'attends, et puis je m'en occupe pas, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, vous êtes lié à trois entités juridiques. Il y a l'Institut des Libertés, qui ne fait rien payer à personne. C'est des vidéos sur YouTube et un blog sur Internet. Point. Deuxièmement, il y a Gafcal, voilà, qui est...
Qui me paye, c'est là où je gagne mon vrai argent.
Voilà.
Bien que j'ai 82 ans, ils ne m'ont pas encore foutu à la retraite, pour des raisons qui m'échappent, mais ça ne serait tardé. Mais ce que j'essaie, c'est de suivre les marchés. On a 1000 clients dans 65 pays, et donc on est lu à peu près chaque jour par 10 000 gérants de portefeuille. Donc,
voilà.
Donc on est sans doute le plus gros au monde dans ce domaine.
Voilà, tout à fait. Et à côté, il y a évidemment l'Université de l'Épargne.
Qui vit quand on l'enseigne il y a un an, donc
voilà.
On fête l'anniversaire aujourd'hui.
Tout à fait, donc on est très
content des résultats. Vous nous avez donné des sous en trop, n'ayons pas peur des mots. Et ces sous en trop, on va les développer, on va les utiliser pour
boucher
des talents, pour les investir, etc. Donc,
tout à fait.
À part lui qui nous coûte la peau des fesses, sinon, si vous voulez, on est très économes de nos... De vos sous.
Tout à fait. Il y a l'État français aussi qui coûte pas mal. Alors, c'est le premier actionnaire de la boîte, hein, visiblement.
Alors qu'on perd de l'argent ou pas, quand on gagne, il n'a rien à foutre, il nous prend du pognon. C'est ça.
Il peut être d'ailleurs la raison pour laquelle on perd du pognon. Donc voilà, il y a l'Université de l'Épargne. Si ça vous intéresse, on fait de l'éducation financière dessus. On ne fait pas de stock picking, même si sur la communauté, on peut tout à fait parler de stock picking, des idées d'investissement, de machin. On n'est pas du tout dans le truc de on va investir là parce que dans 3 mois, ça va faire x5 ou j'en sais rien. On n'est pas du tout là-dessus. On a un portefeuille de référence qui est très connu de tout le monde, avec une espérance de rendement entre en gros 6 et 8% par an corrigé de l'inflation, donc en termes réels. Voilà, donc on n'est pas du tout sur ce genre de promesses farfelues. Donc pareil, si vous voyez des publicités qui ne viennent pas directement du compte officiel de Charles Gave, il y en a un seul sur Instagram, il y en a un seul sur TikTok, à chaque fois c'est les comptes qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Si jamais vous cliquez sur un compte Charles Gave qui a 2000 abonnés ou j'en sais rien, c'est un faux. Donc dès que vous ne voyez pas pour le moment, en tout cas, on n'a jamais fait de publicité directe pour l'Université de l'Épargne, peut-être que ça viendra, mais si vous voyez une publicité pour Charles Gave qui n'est pas liée à l'Université de l'Épargne, en tout cas, c'est une fausse. Et dès que vous cliquez sur un truc qui vous demande votre adresse mail, que vous terminez sur un groupe WhatsApp ou je ne sais quoi, à chaque fois, c'est une arnaque, c'est un truc complètement faux. Voilà, c'est des gens qui surfent sur l'image de Charles Gave, et d'ailleurs pas que sur la sienne, je vois de plus en plus en ce moment des fausses publicités qui utilisent de l'intelligence artificielle.
Il y a Bernard Arnault,
il y a Marc Toiti,
il y a
Marc Fiorentino, des gens comme ça.
Il y a aussi le gars qui fait Hibou.
Hibou, voilà. Voilà, ils utilisent des profils de plein de personnes qui ont une certaine respectabilité dans le milieu financier, voilà, qui sont des figures un peu d'autorité, pour vous dire, venez, venez, j'ai un programme d'investissement, venez dans mon groupe WhatsApp. Spoiler alerte, Bernard Arnault ne fait pas ça. Voilà, Charles Gave non plus, Marc Fiorentino non plus. Chaque fois, passez par les canaux officiels de ces trucs-là, ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi. Voilà, petite disclaimer important tout de même. Et donc si ça vous intéresse d'aller sur l'Université de l'Épargne, il y a un site dédié qui s'appelle www.universitedelepargne.fr
C'est tout.
et c'est tout. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis un grand merci pour votre soutien, puis pour votre attention de manière générale.
Mais on va vous remercier aussi pour quelque chose, c'est que on a eu la première chose qu'on a faite, c'est l'Institut des Libertés. Puis quand on a fait des chroniques financières dans l'Institut des Libertés, les gens nous ont dit, dites donc, est-ce que vous pourriez pas en avoir un peu plus? Donc on a créé l'Université de l'Épargne. Mais quelque part, c'est vous qui nous avez amené à créer l'Université de l'Épargne parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une demande qui n'était pas satisfaite là, quoi.
Oui.
Parce que le processus habituel de l'entrepreneur, c'est de faire des, je sais pas quoi, des roues carrées, puis de se dire, mais, tiens, ils ont besoin d'avoir des roues rondes là-bas, on va faire des roues rondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un processus de découverte qui nous a permis de faire lentement mais sûrement la découverte qu'il y avait un besoin financier qu'on essaye de satisfaire. Voilà.
Tout à fait, absolument.
Donc on vous en est très reconnaissant.
Tout à fait. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et sur l'Université de l'Épargne.
Merci beaucoup.